4 heures en temps universel et vous êtes toujours sur Radio France Internationale. Marion Cazeneuve vous accompagne pour les 30 prochaines minutes. Bonjour Marion.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Votre journal d'abord et ses nouvelles libérations attendues au Proche-Orient.
3 otages israéliens, 183 détenus palestiniens. Le 4e échange depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas. L'aide humanitaire, elle, continue d'entrer dans Gaza, mais les besoins restent immenses, dit l'ONU. L'ONU qui déplore à Goma, dans l'est de la RDC, plus de 700 morts dans les affrontements depuis dimanche. En Birmanie, 4 ans après le coup d'état militaire, la junte continue de perdre du terrain face à des groupes pro-démocratiques issus de minorités. Et puis une première, en Europe, le Portugal va interdire l'exploitation minière de ses fonds marins jusqu'en 2050. Un moratoire a été validé en ce sens hier. Un nouvel échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens est donc prévu aujourd'hui. 3 otages israéliens, 3 hommes détenus à Gaza contre 183 détenus palestiniens. À Gaza, les besoins humanitaires, eux, restent immenses. Selon l'ONU, son agence pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, tente tant bien que mal d'y poursuivre ses activités. Et malgré la fermeture jeudi de son bureau de Jérusalem imposée par le gouvernement israélien, la France doit agir et renforcer son soutien financier à l'UNRWA, réagissent une 60aine de députés français, essentiellement de gauche. Ils ont envoyé un courrier en ce sens au président Emmanuel Macron. Pouria Amirshahi est député socialiste et l'un des signataires.
La situation qui est actuellement celle que vivent les Palestiniens à Gaza, c'est-à-dire un cauchemar quotidien, mérite a fortiori parce que cessez-le-feu a été signé et qu'il faut que ce soit le point de départ d'une paix durable, une reconstruction digne de ce nom. Et ça commence déjà par une aide alimentaire à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, seul le programme alimentaire mondial, le PAM et l'UNRWA sont de facto les deux gros opérateurs qui permettent d'apporter les secours indispensables aux Palestiniens. Et nous avons fait cette démarche en tant que parlementaires de tous bords, pas seulement de la gauche. Il y a des députés du camp présidentiel, du MoDem également, qui l'ont signé. Et nous demandons au président de la République de tout faire pour que le droit international et les opérateurs, notamment l'UNRWA, puissent être considérés comme des opérateurs fiables qui sont pleinement légitimes à la reconstruction de Gaza.
Le député socialiste Pouria Amirshahi, propos recueillis par Romain Lemaresqué. Dans ce contexte, le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte devrait rouvrir aujourd'hui pour permettre l'évacuation de blessés palestiniens. Israël avait décidé de le fermer il y a plusieurs mois. En revanche, il ne devrait pas être question d'acheminer de l'aide humanitaire via ce passage. Le président égyptien lui félicite le nouveau président intérimaire syrien, des vœux d'Abdel Fattah Al-Sisi, donc 2 jours après qu'Ahmed Al-Shara a été proclamé à la tête du pays. Ce dernier, lors d'un discours à la Nation, avant-hier, a dit vouloir préserver l'unité du territoire, mais pour l'instant, le nord-est syrien reste sous contrôle des forces démocratiques syriennes, à majorité kurde, et c'est de plus en plus contesté. Les villes à majorité arabe veulent être administrées par le nouveau pouvoir mis en place. Une manifestation était organisée hier à Damas. Reportage de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
La place des Omeyyades est inondée du drapeau vert et noir de la Nouvelle-Syrie. Des dizaines de familles, pour la plupart originaires du nord-est syrien, se sont réunies là pour demander le départ des forces démocratiques syriennes, comme Mouata et son frère Ahmed, arrivés de Deir ez-Zor.
Nous sommes ici pour demander la libération de l'est de la Syrie, de Deir ez-Zor, de Raqqa. Nous souhaitons que la Syrie soit unifiée, que tous les habitants, tous les organes soient intégrés à la Nouvelle-Syrie. Nous voulons un seul pays, un pays démocratique.
La plupart des familles présentes sont arabes, s'opposent au contrôle des forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Sur les réseaux sociaux, les messages hostiles se multiplient quand dans la région, les tensions entre les deux communautés sont de plus en plus visibles, expliquera l'aide.
Nous attendons du nouveau gouvernement syrien qu'ils expulsent les mercenaires. Nous soutenons Ahmed El-Shara plus que quiconque, car il vit pour l'État, pour le peuple syrien. Nous organiserons des manifestations quotidiennes pour demander leur départ. Et s'il n'y a pas de solution, nous utiliserons les armes.
Plus qu'aux Kurdes même, c'est au groupe armé du PKK et du YPG que ces Syriens sunnites s'opposent.
Ils sont originaires des monts Kandil, d'Irak, d'Iran. Leur nation n'est pas syrienne. Ils occupent notre région, nous prennent notre argent, notre pétrole, nos hydrocarbures et nos terres agricoles. La moitié moitié des ressources de la Syrie se trouve dans cette région.
Pour le nouveau gouvernement de Damas, le contrôle des champs gaziers et pétroliers de la région est primordial et sera l'enjeu principal des négociations avec les autorités de l'administration autonome du nord et de l'est syrien dans les prochaines semaines. À Damas, Manon Chaplin, RFI.
Dans l'est de la RDC, à présent, au moins 700 personnes ont été tuées, 2800 blessées depuis dimanche lors des affrontements à Goma, affrontements entre l'armée congolaise et le M23 soutenu par l'armée rwandaise. La situation a été abordée hier à Harare, au Zimbabwe, lors de la conférence de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Félix Tshisekedi, président congolais, était présent en visioconférence. La SADC ne s'est pas prononcée sur l'avenir de sa force déployée dans l'est de la RDC. Elle a maintenu hier son soutien à Kinshasa. Au Burkina Faso, des dizaines de personnes ont été tuées dans la région du Sahel, entre Seitenga et Séba, c'était au début de la semaine. De nombreuses sources locales accusent un convoi de l'armée burkinabé d'être l'auteur de ces exactions. Abdoulaye Diko, un grand nombre de personnes sont toujours portées disparues.
L'armée burkinabé est arrivée à Koulango, près de Titabé, mardi après-midi. Selon de nombreuses sources jointes par RFI, les soldats interpellent les habitants. Maison après maison, carte d'identité ou pas, raconte un témoin, ils exécutent la personne en face. Au moins 23 personnes ont été tuées dans ce village. Toujours, d'après des témoins, quelques heures plus tard, l'armée a commis les mêmes exactions dans les villages de Tshutibé, non loin de Titabé. Des hommes, des femmes et même des bébés figurent parmi les victimes. Deux frères de mon père ont été tués, témoigne un villageois, qui décrit même ses difficultés à inhumer les corps, abîmés par les balles et en état de décomposition avancée. Seuls ceux qui étaient absents ou qui ont pu fuir ont eu la vie sauve, raconte un villageois. Moi, j'étais de l'autre côté de la frontière, au Niger, pour la vente de mon bétail. À mon retour le soir, ils avaient tué tout le monde dans mon village. Le convoi de l'armée burkinabé mis en cause était parti de Dori lundi dernier. Il est arrivé jeudi à Séba.
Abdoulaye Diko. Comme promis par le président américain, le Mexique et le Canada vont être soumis à des droits de douane. Les produits importés aux États-Unis seront donc taxés de 25%. Donald Trump devrait signer un décret en ce sens aujourd'hui. La Chine sera aussi concernée avec une taxe de 10%. Et les pays de l'Union européenne devraient, eux aussi, bientôt être concernés. Deux jours après la catastrophe aérienne de Washington, un nouveau crash survenu dans le pays, crash d'un jet privé à Philadelphie avec 6 personnes à bord. On ne connaît pas encore le bilan de l'accident. Alors qu'à Washington, après la collision entre un avion et un hélicoptère qui a fait 67 morts, la boîte noire de l'hélicoptère a été retrouvée. L'enquête se poursuit, marquée par des déclarations politiques de Donald Trump qui estime que le drame est le résultat des politiques de diversité mises en place par ses prédécesseurs démocrates. RFI 4h08 en temps universel, 10h38 à Naypyidaw en Birmanie. Il y a tout juste 4 ans, un coup d'état militaire renversait le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Depuis, la junte muselle toute opposition. Plus de 6000 personnes ont été tuées dans des manifestations. Mais la révolte se poursuit. Plusieurs groupes pro-démocratiques affrontent l'armée. L'armée birmane qui, malgré le soutien de la Chine, continue de reculer face à ces groupes. Nicolas Roca.
Les grands centres urbains et quelques poches rurales dans les régions frontalières. Voilà à quoi ressemblent les territoires maîtrisés par l'armée birmane. Une large part du pays reste instable et en proie à d'intenses combats. Cet été, les rebelles ont conquis Lashio, une ville stratégique proche de la frontière avec la Chine. Elle abrite un des 14 commandements militaires régionaux du pays, le premier à tomber aux mains des rebelles. En tout, 95 villes seraient désormais sous contrôle de la résistance selon le Myanmar Peace Monitor, et ce malgré des bombardements intenses de l'armée, notamment sur des civils. À l'ouverture de la 5e année de guerre, la junte n'a jamais semblé aussi faible. Elle a prolongé ce vendredi l'état d'urgence, repoussant de nouveau les élections. Les dernières remontent au scrutin législatif largement remporté par le parti d'Aung San Suu Kyi en 2020, quelques mois avant le coup d'état. Le rôle joué par la Chine sera décisif dans les prochains mois. Pékin soutient la junte, à qui elle continue de livrer des armes, et parraine des négociations motivées par ses intérêts économiques et son désir de stabilité à sa frontière.
Nicolas Roca, hier, la junte a décidé de prolonger l'état d'urgence pour 6 mois supplémentaires en Birmanie. Une telle décision équivaut à repousser la tenue d'élections. Des milliers de personnes, surtout des étudiants, devraient manifester tout à l'heure en Serbie, à Novi Sad, la deuxième ville du pays, 3 mois tout juste après l'effondrement de la gare qui a fait 15 morts depuis. Un vaste mouvement s'est créé. Il réclame la fin de la corruption dans le pays. Sous pression, le Premier ministre a d'ailleurs démissionné il y a quelques jours. Mais ces jeunes n'ont pas particulièrement d'agenda politique et font attention à ne pas attaquer directement le président Aleksandar Vučić. C'est ce qu'explique Tara Mirković, journaliste franco-serbe au Courrier des Balkans.
Les étudiants font très attention justement à s'éloigner de la personne de Vučić. C'est pas la personne responsable pour ce qui s'est passé. Donc bien sûr que derrière, en fait, une fois que cette la première revendication des étudiants, qui est la publication de toute la documentation relative à la reconstruction de la gare de Novi Sad, une fois que ce sera publié, là bien sûr, on peut voir qu'il y a beaucoup de corruption, que tout le monde est responsable, on peut remonter très haut en fait. Mais je pense que c'est là où c'est très intelligent, c'est qu'ils vont chercher en fait, nous on veut que les institutions fassent leur travail. Et Vučić, ça le démange. En fait, lui, il adore être à la télévision, dire que c'est toujours tout le monde s'acharne sur lui. Sauf que là, aujourd'hui, et ça qui est drôle, c'est que les étudiants, même en manif, ils disent « on t'a rien demandé ». C'est vraiment ça, c'est là même, là, c'est pour ça que la démission là, du Premier ministre l'autre jour, en fait, ça fait aucun effet, parce que les étudiants disent « on a ces revendications très précises, on veut que le système fonctionne depuis beaucoup trop longtemps, il ne fonctionne pas, il est corrompu. Ça pourrait être Vučić, ça pourrait être quelqu'un d'autre. » C'est ça qui fait que lui, il ne sait pas sur quel pied danser, parce que tout à coup, il n'est plus au centre de l'histoire, en fait.
La journaliste Tara Mirković avec Carlota Morteo. En Belgique, près de 8 mois après les élections, les partis s'entendent enfin pour former une coalition. Elle sera dirigée par le chef des conservateurs Bart De Wever. Ce dernier devrait donc devenir Premier ministre. On en parle plus en détail dans le journal de 6h, temps universel, avec notre correspondante à Bruxelles. Le Portugal, lui, ne touchera pas à ses fonds marins jusqu'à 2050 au moins. Décision historique en Europe, le Parlement adopte un moratoire pour interdire l'exploitation minière dans ses eaux. Et ce moratoire servira de base à une loi qui sera soumise ensuite à un vote des députés. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
Nous sommes en train de faire l'histoire. Trois ONG environnementales portugaises se sont félicitées de la décision de l'Assemblée nationale de reporter à 2050 toute décision concernant l'exploitation des fonds marins portugais. Depuis longtemps, les associations alertaient sur l'impact possible des mines sur des écosystèmes encore très mal connus. Le gouvernement de droite s'était rangé à cet avis, estimant qu'il s'agissait d'une plongée dans l'inconnu. Le consensus a été assez large entre les députés qui le soutiennent et la gauche, et un texte de loi va être adopté prochainement. Ce sera le premier du genre en Europe, car si une trentaine de pays dans le monde envisagent eux aussi d'adopter un moratoire, seules les îles Palaos et Fidji, dans le Pacifique, ont interdit l'exploitation minière des fonds marins. Le Portugal est, c'est vrai, particulièrement concerné. Il possède une vaste zone maritime exclusive qui englobe entre autres l'archipel des Açores dans l'Atlantique. Et c'est en bordure de ces îles, entre 4 et 6 000 mètres de profondeur, que des projets sont à l'étude, financés par la France, la Pologne et la Russie. Marilyn Darcy, Lisbonne, RFI.
RFI 5h13 à Paris, 4h13 en temps universel. On reste ensemble pour une vingtaine de minutes d'informations, avec d'abord l'accent des autres, votre rendez-vous des radios francophones publiques. C'est avec Pierre Anchoffat.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Voici l'actualité de la semaine avec RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, ici et la RTBF. Et d'abord aujourd'hui, cette affaire au Canada. Le ministre de l'Environnement a cédé aux pressions de la multinationale Glencore. Sami Rebaïn, il a renoncé à renforcer les contrôles sur l'importation de déchets électroniques.
Oui, selon des documents obtenus par Radio-Canada, malgré les risques environnementaux et ceux pour la santé publique, le ministre de l'Environnement s'est laissé convaincre par des préoccupations économiques.
C'est désormais officiel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, Nicolas Sûr.
Ces trois pays dirigés par des juntes militaires accusaient la CEDEAO, modèle d'intégration en Afrique en garantissant la liberté de circulation des personnes et des marchandises, d'être à la solde de la France.
Ce projet aussi du gouvernement suisse, s'il arrive à ses fins, les couples suisses ne pourront plus adopter d'enfants à l'étranger, Pierre Anchoffat.
Interdire pour éviter les abus du passé et protéger les enfants, une posture qui ne convainc pas, alors qu'à peine 30 dossiers d'adoption à l'international aboutissent chaque année dans notre pays.
2 jours de grève dans l'enseignement francophone en Belgique, c'était en début de semaine. Jacques Crémers, les enseignants dénoncent les réformes annoncées par le gouvernement francophone.
Oui, l'action a été plutôt bien suivie. Les enseignants dénoncent une réforme de l'enseignement qualifiant, des contrats à durée indéterminée pour les nouveaux collègues au lieu de nomination. 30 000 d'entre eux ont manifesté leur mécontentement dans les rues de Bruxelles.
Enfin, la Joconde, bientôt plus chère. Dès l'année prochaine, les touristes non européens devront débourser un peu plus pour voir Mona Lisa au Louvre à Paris. Une augmentation dans le cadre d'un vaste projet de rénovation pour le musée. Vous entendrez ce qu'en pensent les principaux intéressés. La multinationale Glencore a donc fait plier le ministre canadien de l'Environnement. Le Canada n'ira pas de l'avant avec les amendements de la Convention de Bâle des Nations Unies. Il s'agit, Samy, d'un traité international qui vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes des déchets dangereux.
C'est exact, Olivier, parce qu'environ 100 000 tonnes de déchets électroniques entrent au Canada chaque année depuis l'étranger pour être recyclés. On parle ici par exemple de cartes de circuit imprimées, des dispositifs d'affichage et tout équipement qui contient une substance toxique. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le traitement de ces déchets par la fonderie qui appartient à Glencore occasionne des émissions polluantes, entre autres de l'arsenic, qui excède les limites autorisées de qualité de l'air. Mais le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, soutient que le produit fini est indispensable pour la transition énergétique du pays. Le voici.
C'est la seule usine en Amérique du Nord qui peut produire cette composante-là dont nous avons besoin dans l'électrification des transports. Et si ce n'est pas eux, ben c'est soit plus de pétrole ou on fait venir ces composantes-là de la Chine, qui à la fois d'un point de vue environnemental et d'un point de vue de droit de la personne, pose un certain nombre d'enjeux.
Le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, donc. Alors, Samy, l'entreprise Glencore a fait valoir qu'imposer des permis à toute importation, transit ou exportation de déchets électroniques serait trop contraignant et nuirait à sa compétitivité.
Voilà, l'entreprise admet que son modèle économique repose de plus en plus sur le traitement de ses déchets. Glencore a dit au gouvernement canadien que ça pourrait même remettre en question son investissement de 750 millions de dollars, donc environ 500 millions d'euros, pour réduire ses émissions polluantes et même conduire à la fermeture de sa fonderie. Glencore veut donc augmenter la cadence et recycler encore plus de déchets électroniques. Mais d'après nos sources, il s'agirait d'arguments exagérés.
Encore une question, Samy, comment réagit la société civile ?
Eh bien, on se doute bien qu'elle n'est pas très enchantée, d'autant plus que la fonderie en question était déjà impliquée dans une controverse qui implique des rejets de déchets polluants. Je vous propose d'écouter la réaction de Laure Varidel. C'est une éco-sociologue et environnementaliste.
Cette décision est absolument inexcusable. Notre ministre de l'Environnement accepte de participer à une forme de chantage qui va permettre à cette entreprise-là de maximiser ses profits aux dépens de la santé de la population.
Et en terminant, Olivier, le gouvernement indique que la question n'est pas encore tranchée définitivement, que des consultations seront menées cette année pour d'éventuels changements aux règles qui concernent le marché des déchets électroniques.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso n'appartiennent plus à la CEDEAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, trois pays désormais regroupés au sein de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ils étaient en guerre ouverte contre la CEDEAO qui avait pris des sanctions ou menacé d'intervention militaire après les coups d'État. Nicolas, la communauté ouest-africaine annonce toutefois vouloir maintenir le dialogue.
Oui, la CEDEAO annonce que les avantages qui existent dans l'espace communautaire continuent pour le moment à s'appliquer à ces trois pays. Les passeports CEDEAO des citoyens de l'AES restent valables, les droits de libre circulation et d'installation sont maintenus, les exemptions de douane pour les biens et services aussi. Objectif, éviter une rupture brutale. La CEDEAO laisse par ailleurs 6 mois au Niger, au Burkina et au Mali pour revenir sur leurs décisions, une proposition déjà balayée par les intéressés.
Alors la CEDEAO et les pays de l'AES doivent désormais négocier les formalités de retrait. Nicolas, de quoi s'agit-il ?
Le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé que les ressortissants de la CEDEAO pourraient entrer sans visa dans leur espace. La réciproque devra être négociée, tout comme les nouvelles règles qui s'imposeront aux citoyens de l'AES et aux entreprises installées dans les pays de la CEDEAO et inversement. En jeu également, les programmes menés par la CEDEAO dans les trois pays, agriculture, infrastructure, ils sont nombreux. Enfin, comme les pays de l'AES ne quittent pas l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe les pays utilisant le franc CFA, la libre circulation des marchandises et des biens reste acquise avec ces pays, mais pas avec le Nigeria et le Ghana, deux des poids lourds économiques de la CEDEAO, qui ont leur propre monnaie.
L'accent des autres.
En Suisse, le gouvernement veut donc interdire purement et simplement l'adoption d'enfants à l'international. Il veut ainsi, Pierre-Anne, éviter les irrégularités constatées par le passé.
Oui, le Conseil fédéral avait déjà exprimé ses regrets en 2020. Il avait alors reconnu les manquements des autorités à propos du scandale le plus spectaculaire en matière d'adoption. Les fermes à bébés du Sri Lanka, dans les années 80, des femmes étaient exploitées par des réseaux de trafiquants pour littéralement produire des bébés vendus ensuite jusqu'à 15 000 francs à des couples occidentaux. Plus de 800 l'ont été en Suisse. Aujourd'hui, le gouvernement est arrivé à la conclusion que l'interdiction serait le meilleur moyen d'éviter d'autres abus, sur cette conviction du patron de la justice, Beat Jans.
Il n'y a pas de droit à l'adoption, il n'y a pas non plus de droit à l'enfant. Par contre, le droit existe pour chacun de connaître ses origines.
La protection de l'enfant prime donc sur le désir de parentalité.
Et c'est une décision, Pierron, draconienne qui fait évidemment réagir.
Renforcer les contrôles et limiter l'adoption à des pays jugés sûrs, telle serait l'alternative. L'élu conservateur Mauro Poggia est sévère avec la position du gouvernement.
La proposition exprime une lâcheté de nos autorités qui, pour éviter les problèmes, décide tout simplement de ne plus permettre à des personnes de faire le bien et de le faire avec le cœur. Il faut évidemment faire que les irrégularités qui ont parsemé le passé récent ne se reproduisent plus et, le cas échéant, écarter les pays qui ne sont pas dignes de notre intérêt.
Directrice de l'association Mosaïque Adoption, Jenny Sou craint que l'interdiction dope le marché noir de l'adoption.
Vraiment, on a très peur de ça, que les adoptions vont se faire à l'étranger, vont se monnayer encore plus cher. Il y aura tout un marché parallèle qui va se mettre en place.
Le projet de loi attendu pour fin 2026 sera donc disputé. D'ici là, les adoptions d'enfants à l'étranger restent possibles.
En Belgique, 30 000 enseignants ont manifesté à Bruxelles en début de semaine. Une manifestation, mais aussi deux jours de grève dans les écoles. Un mot d'ordre plutôt bien suivi pour dénoncer les réformes voulues par le gouvernement francophone de Belgique, Jacques.
Oui, syndicats, enseignants, élèves, plus de 30 000 manifestants ont manifesté lundi à Bruxelles. Mardi, ils étaient dans les rues de Liège. Des écoles étaient en grève, pas toutes, mais on a bien senti, mesuré une forte mobilisation. Il faut dire que les motifs de mécontentement ou d'inquiétude sont nombreux, dirigés contre la nouvelle majorité MR, les engagés au pouvoir depuis les élections de juin dernier.
Et les enseignants dénoncent notamment, Jacques, des mesures qui visent l'enseignement qualifiant.
La fin des petites options qui attire peu d'élèves, à la baisse des normes d'encadrement et la fin aussi de la 7e année en technique de qualification. Les élèves diplômés au terme de la 6e année devront ainsi se tourner vers d'autres filières de formation pour adultes, comme par exemple l'enseignement supérieur ou la formation en alternance, inacceptable pour ces professeurs dans la manifestation.
On ne comprend pas très bien pourquoi nos élèves, qui finalement sont des élèves en difficulté, qui ont rechoisi quelque part une voie qualifiante, donc il leur permet d'avoir un métier, et là on leur dit, quelque part, votre formation, soit elle perd de sa valeur, en tous les cas, on ne permet pas de vous former complètement, et donc toutes les possibilités qu'on donnait d'accès supplémentaire, on les supprime.
Ils vont devoir partir vers un autre type d'enseignement, en tout cas pour certains, mais toutes les options ne sont pas disponibles en promotion sociale, donc c'est catastrophique pour ces élèves.
Les manifestants dénoncent encore la fin des nominations remplacées par des contrats à durée indéterminée. La ministre de l'Éducation, elle, appelle à la concertation. Elle tempère ses critiques, dénonce des contre-vérités. Aucun parcours d'élève ne sera cassé, affirme Valérie Glatigny. Mais deux jours de grève consécutifs, ce n'était plus arrivé depuis les années 90. Preuve que l'incompréhension est grande entre les acteurs de l'enseignement.
Enfin, la Joconde sera bientôt plus chère pour les non-européens. Le célèbre tableau de Léonard de Vinci se trouve au Louvre, à Paris. C'est le musée le plus fréquenté au monde, avec près de 9 millions de visiteurs l'an dernier. C'est en fait deux fois plus que ce qu'il ne peut accueillir, d'autant que le Louvre est en mauvais état. Il y a des infiltrations, des variations de température qui menacent la conservation de certaines œuvres. Le président Macron annonce un plan de rénovation d'ici 2031, avec une nouvelle entrée plus grande pour faire face à l'affluence. Et dans ce cadre, la Joconde aura une salle à elle, entièrement dédiée pour être mieux présentée au public et avec un billet à part. Et les touristes non européens paieront plus cher pour voir Mona Lisa dès l'année prochaine, autour de 30 euros au lieu de 22 actuellement. Alors qu'en pensent les touristes non européens? Laurent Kramer leur a posé la question pour Ici.
Pourquoi payer plus cher que les Européens pour voir la Joconde? Ces deux étudiants coréens s'interrogent, puis répondent que ce n'est vraiment pas très sympa.
Ça dépend si c'est pour que le musée soit en meilleur état, pourquoi pas.
Michael, lui, vient de Miami.
30 euros, ça passe, mais pas plus.
Car Paris est déjà une ville chère, avancent les touristes sud-américains.
L'entretien de ce musée doit coûter cher. Ah, mais 30 euros, c'est une somme. Ça me rend triste.
C'est cher, 22 euros, c'est bien déjà, non? C'est excessif, 30 euros, je trouve.
Mais l'idée de voir la Joconde différemment enthousiasme néanmoins tous ceux qui ont mal vécu leur visite au musée du Louvre, comme Takumi, étudiant japonais.
C'était bondé. Et je n'ai pas pu faire de belles photos avec tous ces gens devant moi. Donc payer pour une expérience beaucoup plus belle que ça, je suis partant.
Oui, je paierais volontiers beaucoup plus cher.
Anna vient des États-Unis, sa visite de la Joconde n'est pas non plus un bon souvenir.
Oui, il y avait trop de monde et il a fallu être très patient. Et on n'a pas vu grand-chose, donc dépenser un peu plus pour la Joconde est justifié.
Mais il faudra patienter jusqu'en 2031 pour voir la Joconde dans cette nouvelle salle. Les tarifs, eux, augmenteront dès l'an prochain.
Reportage de Laurent Kramer à Paris pour Ici. On va donc refermer l'accent des autres à Paris cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Pierre-Anne Chauffat vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'accent des autres avec les médias francophones publics.
RFI 5h26 à Paris. Le cygne et le crapaud, le blaireau pyromane ou encore le tigre qui savait chasser. Ça ressemble à des titres de fables de La Fontaine. Ce sont bien des fables, mais écrites par des Français de l'étranger qui peuvent envoyer leurs inventions pour un concours organisé par la commune de Châteauneuf-sur-Loire dans le centre-ouest de la France. Olivier Goussard, conseiller municipal à la mairie de Châteauneuf-sur-Loire, est l'initiateur de cette compétition. Il répond aux questions de Corinne Manjou.
Alors en fait, la commune de Châteauneuf-sur-Loire a une tradition culturelle forte. Ont été ses citoyens, Maurice Genevoix, Georges Simenon, le fabuliste Florian du XVIIIe siècle, à qui l'on doit des morales connues. Par exemple, « Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est Florian. Pleurer des larmes de crocodile, c'est Florian. À chacun son métier et les vaches seront bien gardées, c'est Florian. Sans un peu de travail, il n'y a pas de plaisir, c'est Florian. » Alors avec la nouvelle équipe municipale, nous avons décidé de faire un événement culturel autour de Florian. Et l'idée nous est venue de faire un concours de rédaction de fables. Depuis 4 ans, nous recevons chaque année des dizaines et des dizaines de fables. Donc c'est une initiative culturelle locale pour défendre la francophonie et l'écriture en français.
Vous avez un prix que vous donnez tous les ans?
Tout à fait, oui. Alors nous avons plusieurs catégories. Les deux principales étant les jeunes de moins de 16 ans et ensuite les adultes de plus de 16 ans.
Pourquoi avez-vous créé ce concours de rédaction de fables?
La motivation principale, c'était de maintenir la tradition culturelle de notre commune de Châteauneuf-sur-Loire, que l'on puisse parler de Châteauneuf à travers des fables. Et puis aujourd'hui, le style de la fable permet, avec un peu d'humour, de traiter des problèmes sociétaux actuels qui sont quelquefois un peu lourds. Les animaux remplacent les hommes. L'année dernière, j'ai reçu une fable sur les vaccins, un anti-vax qui a rédigé cette fable. Il se moquait de lui-même et ça a été assez drôle.
Vous avez choisi de mettre en exergue la communauté des Français de l'étranger. Pourquoi ce choix?
Parce que les Français de l'étranger que je connais bien ont par leur situation géographique un œil et une vue sur le monde qui s'adaptent tout à fait bien au style littéraire de la fable. Ils sont Français à l'étranger, ils sont donc confrontés à des situations qui peuvent faire l'objet de fables tout à fait intéressantes.
Comment avez-vous procédé pour informer ces Français de l'étranger de ce concours?
Alors en fait, c'est assez simple, je connaissais bien l'ADFE.
Une association qui milite pour les droits des Françaises et des Français de l'étranger.
Tout à fait, oui. Parce que j'ai organisé les rencontres notariales internationales qui permettaient d'aller dans les consulats, les ambassades, informer les Français sur les donations et les successions internationales. Donc quand l'idée est venue, j'ai repris les contacts que j'avais eus il y a quelques années, qui m'ont bien aidé à lancer ce projet. Ils ont fait de la publicité sur leur site internet et nous avons reçu des fables du monde entier. Je me souviens très bien que la première fable que j'ai reçue était de Macao. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement drôle que la petite ville de Châteauneuf-sur-Loire reçoive une fable de Macao. Alors, on a même eu un Français qui habite Rovaniemi. Vous savez, c'est le pays du Père Noël.
Au nord de la Finlande.
Ah oui, tout à fait. Il nous a lu sa fable par -25 degrés au milieu de la neige. En plus d'être un excellent rédacteur, il nous avait bien fait rire. Au milieu de la neige, c'est une fable avec des animaux extraordinaires.
Quelle est la valeur de ce prix, très concrètement?
Nous avons une marraine qui s'appelle Diane de Cellier. Diane de Cellier fait des livres d'art sur des fables à Paris. Elle fait des livres magnifiques. des livres qui ont trait à la fois à l'étranger et à la culture. Et donc, nous allons envoyer à chaque gagnant un livre qui vient de chez Diane de Sellier et ensuite un kit de visite des monuments et sites culturels du Loiret. Comme cela, quand les Français d'étrangers reviendront en France, nous inviterons dans notre ville de Châteauneuf, ils pourront faire un petit tour dans tout le Loiret et visiter gratuitement les sites culturels.
La chronique « Vivre ailleurs » de Corinne Mandjou. Restez avec nous sur RFI. Dans quelques secondes, c'est le retour de l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel.